Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anne Boyer, agrégée de mathématiques, docteur en histoire des mathématiques et présidente de l'association Femmes et Maths.
Bonjour Anne Boyer.
Bonjour.
Saviez-vous dès le début ce que vous souhaitiez faire comme métier ?
Pas du tout. En fait, j'aimais bien un petit peu tout, mais j'aimais beaucoup la littérature. Puis après, quand je suis arrivé en terminale, il y avait la philosophie que j'adorais. Et j'étais passionné d'histoire. Bon, voilà. Et je n'avais aucune idée de ce que je ferais plus tard. J'avais quand même eu des attirances vers certaines sciences. C'est des hasards. Hein. Il faut savoir que la vie est faite de hasards. Et quand on est jeune, ado, ou pas encore très établi dans un métier, c'est une succession de hasards qui fait qu'on va décider de ce qu'on fait. Quand j'étais en troisième, il y avait quelque chose qui s'appelait la distribution des prix. Et j'avais eu un livre qui racontait l'histoire de Florence Nightingale, dont je vais parler tout à l'heure à vos camarades de première. Et oh là là, j'avais été époustouflé, mais comme elle était infirmière, hein, et comme beaucoup de filles, j'étais attiré par les métiers de la médecine et du soin. Et puis j'avais eu aussi un livre un petit peu plus tard sur Marie Curie. Et c'était devenu mon héroïne. Et donc j'étais quand même un peu attiré par les sciences, mais vous voyez, pas vraiment vers les maths, voilà.
Étiez-vous une surdouée au collège ou au lycée ?
Surdouée, c'est un mot que je n'aime pas du tout. J'étais une très bonne élève, il faut le dire. Hein. Mais pour moi, j'étais dans une famille aussi qui était un petit peu favorable aux études. Hein. Donc j'étais ouvert sur beaucoup de choses. Oui, j'étais une très bonne élève dans toutes les matières. Je n'avais pas de choses particulières.
Quelles études avez-vous suivies au lycée après le lycée ?
Si je peux pas, tu la reposes vraiment proche, on t'entend beaucoup moins là.
Quelles études avez-vous suivies au lycée et après le lycée ?
Alors, au lycée, j'ai fait... c'est un petit peu changé. Hein, il y a beaucoup de réformes dans l'enseignement. Donc, si je peux caractériser ce que j'ai fait, j'avais fait les classes en lycée qui englobaient toutes les matières, en quelque sorte, à peu près à l'égalité, c'est-à-dire les sciences, les maths, et puis je faisais aussi des langues, je faisais du latin, du grec, des langues vivantes. Enfin, moi, j'étais avide de connaissances, comme toujours, d'ailleurs. Donc, tout ce qui se passait à ma portée, je faisais. Hein. Donc, j'étais dans ce qui aurait correspondu un petit peu à la section S, qui n'existe plus maintenant, avec toutes les options possibles. Voilà. Après, j'ai été en prépa, hein, donc prépa maths-sup, puis maths-p, voilà. Et puis, j'ai eu un petit coup de mou, parce que justement, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Hein. Donc, j'ai passé un an en Angleterre, puis après, je suis revenu à la fac pour faire des études de mathématiques, voilà. Et puis, en même temps que ma licence de mathématiques, j'ai fait, voilà, c'était nouveau, ça n'existait pas avant, quelque chose qui s'appelait histoire des mathématiques et épistémologie. Épistémologie, c'est un mot très, très savant. C'est un petit peu la philosophie vers les mathématiques. Alors, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que j'aimais bien, l'histoire et la philo, mais que j'étais aussi bon en maths. Ben voilà, c'était pour moi une manière d'englober tout ça. La philo, l'histoire, les maths. C'était super. Voilà.
Avez-vous été attiré dès le début par les mathématiques ?
Bien non, hein, voilà, je vous ai tout raconté. Je n'étais pas vraiment attiré par les mathématiques, même si quand j'étais en maths sup, parce qu'il faut savoir que quelquefois, vous le vivez, là vous êtes au collège, après vous serez au lycée, puis quelquefois, c'est des mathématiques un peu scolaires, c'est logique, il faut bien hein, commencer à apprendre, c'est comme dans tout. Hein. Au début, il faut faire des sortes d'exercices d'entraînement, ce n'est pas forcément passionnant. Hein. Quand j'étais arrivé en maths sup, il y avait des choses qui posait vraiment problème, des choses un petit peu difficiles. Et puis, là, c'est pareil, c'est des rencontres. Hein. Je suis tombé sur un professeur de mathématiques qui avait beaucoup de culture, en particulier de la culture des mathématiques des Grecs anciens, etc. Donc, il racontait des choses. Et ça, pour moi, c'était vraiment très, très séduisant. Mais bon, je n'avais pas un appétit particulier pour les mathématiques. C'est un petit peu le hasard qui fait que j'ai fait des mathématiques.
Est-ce une personne qui vous a fait aimer les mathématiques ?
Eh bien, voilà, par exemple. Mais aimer, c'est beaucoup dire. Hein. Parce qu'en fait, c'est assez particulier. J'ai commencé à vraiment aimer les mathématiques, et avec quelques bémols, hein, quand j'ai fait de l'histoire des mathématiques. Parce que ça me donnait un éclairage. Je comprenais pourquoi on faisait ça, pourquoi on s'était posé cette question, et comment ça marchait les maths. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il serait important d'apprendre.
Est-ce que quelqu'un vous a découragé durant vos études parce que vous étiez une femme?
Il faut qu'on recommence la question, on n'a pas entendu dans le casque.
Est-ce que quelqu'un vous a découragé durant vos études parce que vous étiez une femme?
Découragé, je ne dirais pas. Par contre, je vous ai parlé de mon passage en classe préparatoire, en maths sup, maths P. Ça, c'était assez difficile, en particulier en maths P. Nous étions très très peu de filles. Il y a toujours malheureusement très très peu de filles dans les classes préparatoires de mathématiques. Et j'avais un professeur de mathématiques qui était vraiment très... Enfin, il s'adressait aux garçons, il faisait des blagues de garçons, et les filles, on se sentait très très mal là. Donc c'était assez décourageant. Je vous ai dit que je suis parti en Angleterre parce que je me disais, c'est un climat que je n'aime pas du tout. Hélas, je pense que ça arrive toujours.
Comment êtes-vous arrivé à avoir une renommée nationale?
Je ne suis pas sûr d'avoir une renommée nationale. Bon, je pense que je suis connu parce que je fais beaucoup de choses, je participe à... J'aime beaucoup transmettre. Donc à chaque fois que je peux trouver une association, un endroit où je peux transmettre, voilà. Et j'ai essayé de... Donc j'ai travaillé avec dans un groupe qui s'appelle l'IREM, Institut de Recherche pour l'Enseignement des Mathématiques, dans lequel il y a un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes qui justement, donc là-dedans il y a des petits sous-IREM on va dire, et donc il y en a qui s'occupent justement de savoir comment l'histoire des mathématiques peut apporter des choses intéressantes pour l'enseignement des mathématiques. Donc ça, ça donne une ouverture nationale et internationale parce qu'on participe à des rencontres. Il faut savoir que quand on fait n'importe quoi, mais aussi des mathématiques, ça peut sembler bizarre, et aussi de l'enseignement des mathématiques, c'est important, on peut participer à des colloques, on rencontre beaucoup d'autres personnes en France et à l'étranger. Et ça, ça apporte énormément de choses. Donc je pense que c'est ça, j'ai participé à énormément de choses. J'ai écrit des articles, j'écris dans des livres, voilà. Et puis, bon, moi j'aime transmettre, alors je pense que ça se sent.
Avez-vous travaillé avec d'autres personnes dans vos différentes activités?
Oui, bien sûr, je viens de le dire. Je pense qu'on tout seul ou toute seule, on n'arrive à rien. C'est toujours un travail. Et moi, en plus, je suis extrêmement attaché au travail d'équipe. Je pense qu'on ne peut rien faire quand on est tout seul dans son coin. Donc, même quand j'étais encore... J'ai enseigné beaucoup en lycée. Et quand j'étais en lycée, j'avais... Maintenant, vous avez la chance d'avoir des labos de maths où les professeurs peuvent se réunir et faire plein de choses ensemble. Là, moi, quand j'étais en lycée, ça n'existait pas encore, mais j'avais créé un petit labo de maths parce que ça me semblait intéressant. Donc, même avec mes collègues de lycée, eh bien, j'incitais au travail d'équipe, au travail ensemble. Et c'était bien parce qu'on faisait venir des gens comme moi, je viens aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, dans l'IREM aussi, bien sûr, dans toutes les structures où je suis, même quand je fais de l'histoire des maths à l'université, on travaille ensemble, bien sûr. Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles de collègues étrangers quand j'ai été justement à l'étranger. On est toujours en correspondance, on fait des travaux ensemble. Et ça, c'est bien parce qu'on peut comparer ce qui se fait en France et ce qui se fait dans d'autres pays. À la fois, je parle là de l'enseignement des mathématiques et de l'histoire des mathématiques. Et évidemment aussi de la condition des femmes. Parce que ça, je l'oubliais, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Quand j'ai commencé à faire de l'histoire des mathématiques, à un moment donné, je me suis dit, mais on ne me parle que d'hommes, je ne cherche que des mathématiques que faites par les hommes. Peut-être qu'un jour, il y a quand même des femmes qui ont fait des mathématiques. Et donc là, du coup, j'ai commencé à chercher et j'étais encore professeur de lycée à ce moment-là, donc j'ai fait participer mes élèves à cette recherche et c'était très enthousiasmant. Et je faisais partie de cette association qui s'appelle Femmes et Mathématiques. Et là-dedans, voilà, je fais énormément de choses aussi.
Avez-vous découvert des choses dans le monde des mathématiques?
Non, découvert, ce serait beaucoup dire. Puisque moi, je suis historienne. Donc, en fait, moi, je recherche comment les autres ont fait des mathématiques, pourquoi ils se sont posés ces questions. Et c'est vrai que quand on fait une thèse, puisque quand on devient docteur dans n'importe quelle discipline, on fait une thèse. Et donc, on fait une thèse sur un certain sujet. Et là, en fait, j'ai approfondi tout un domaine de géométrie. Donc, je recherche des textes qui, quelquefois, sont peu connus. C'est finalement, faire de l'histoire des mathématiques, c'est presque comme résoudre un problème de mathématiques. On a plein de choses comme ça. On se dit, il nous manque ce petit truc là au milieu, comme si c'était un puzzle. Et tout d'un coup, on découvre le texte. Ah voilà, on se dit, bah oui, ça s'est passé comme ça et comme ça. C'est comme quand vous essayez de résoudre un problème. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. on se dit, ah ben oui, ça doit être comme ça et comme ça. Puis il nous manque ce petit truc, c'est titillant. Puis tout d'un coup, ah, mais oui, bien sûr. Et voilà.
Que faites-vous dans votre quotidien en ce moment? Quelles sont vos recherches actuelles?
Dans mon quotidien en ce moment, je fais énormément de choses. Parce que je vous ai dit, moi, j'aime bien participer à tout. Donc, je fais énormément de choses. En tant que président de Femmes et Mathématiques, évidemment, ça m'occupe beaucoup. Hein, c'est une association très importante. Donc, j'essaie de stimuler tout, de travailler avec mes collègues. Hein, je vous l'ai dit, on est en équipe. Hein, c'est une équipe très active. Donc, ça occupe beaucoup. En histoire des mathématiques, mes recherches actuelles, ça porte essentiellement... Enfin, je suis toujours dans la géométrie. Hein, donc, j'ai approfondi deux domaines. Le domaine des vecteurs. Alors, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler des vecteurs, mais vous commencerez à en entendre parler bientôt. Donc, les vecteurs, c'est un domaine de la géométrie qui a commencé à se mettre en place vraiment au 19e siècle. Donc ça, c'est quelque chose que j'étudie beaucoup. Et puis, je suis aussi passionné d'autres choses, de la musique. Donc, j'approfondis beaucoup des choses sur l'histoire des mathématiques et de la musique, parce que c'est extrêmement lié. Voilà.
Cette année, le thème du labo de maths est filles et maths. Nous avons demandé à Cindy Châtaignier ce qu'est un stéréotype. Quelle est votre définition?
Un stéréotype? Définition, c'est un petit peu difficile. Hein. Disons que un stéréotype, c'est quelque chose. On pense que de façon naturelle, de façon innée, il y a des choses qui sont comme ça et pas comme ça. Donc, et puis il y a des choses qui sont, la plupart du temps, les stéréotypes sont montés de toutes pièces. Ça s'avère pas vrai. Si vous interrogez n'importe qui dans la rue, si les filles, les filles sont bavardes, les garçons sont moins bavards que les filles, ce qui est complètement idiot. Hein. Moi, je suis très bavarde, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde est bavard. Hein. Il y a des garçons aussi qui sont très bavards. Ou, je sais pas, les garçons sont plus intelligents que les filles, mais bon. Hein. Donc, les stéréotypes, c'est une sorte de quelque chose qui est préconçu dans sa tête, et souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est transmis par l'histoire. Et donc, dès qu'on est né, en quelque sorte, on est baigné dans un nombre d'idées reçues. Et stéréotypes, c'est pire que des idées reçues. C'est qu'on pense que c'est la vérité vraie, presque. Hein, que c'est comme ça et que ça ne changera pas. Biologiquement parlant, les filles sont nées pour s'occuper des autres, pour faire de la médecine, pour être infirmière, et pas pour inventer des choses et être... voilà, par exemple, mathématicienne. Mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais quelquefois, malgré soi, même moi, qui suis quand même très, 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 très à cheval là-dessus et qui a pris conscience, je pense, de pas mal de choses, parfois, ça m'échappe. Je tombe sous le coup du stéréotype. Et je me dis, mais non, mais Anne, non, mais attention, Anne. Mais parce qu'on est tellement habitué, c'est tellement ancré dans les cervelles qu'on a du mal, quelquefois, à s'en sortir. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience et de les déconstruire. Et ça, c'est difficile.
En tant qu'homme, doit-on se sentir coupable de ce stéréotype négatif?
Eh bien non, bien sûr. Hein, puisque en fait, c'est l'histoire de nos sociétés qui fait ça. Hein. Ce n'est pas les hommes en tant que tels qui doivent se sentir coupables de ça. C'est la société. Ceci étant, je pense que comme on a une société... On prend conscience maintenant du fait que dans la loi, en France du moins, c'est pas vrai dans tous les pays, mais dans la loi, les hommes et les femmes sont à égalité. Normalement, on a les mêmes droits. Et après, il faut s'emparer de ces droits. Et on s'en empare pas forcément bien, hein, parce que justement, on est freiné par tous ces stéréotypes qui sont dans la tête. Et les garçons en particulier, ils sont baignés depuis leur naissance dans une sorte de système masculin, hein. Les garçons ne doivent pas pleurer, les filles, elles peuvent pleurer, enfin, des choses comme ça. Et donc, en fait, les garçons, ils sont pris aussi dans ce système de stéréotypes. Mais comme ils s'y trouvent dans l'ensemble mieux, mais il y a des garçons qui ne s'y trouvent pas bien du tout non plus. Hein. En fait, il faut savoir que quand on fait des choses en faveur d'un milieu social un petit peu défavorisé pour qu'ils sortent de ce milieu, par exemple, quand nous, on fait des choses pour que les filles aient plus... envie de faire des choses comme les hommes, eh bien, les hommes, ils en profitent aussi. Hein, ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a des garçons qui ne sont pas bien, qui auraient envie de faire de la danse. Et puis, c'est mal vu, parce que, bon, un garçon qui danse... les lettres, hein, les lettres, par exemple, maintenant, c'est devenu un truc plus féminin que masculin. Or, il y a des garçons qui s'épanouissent dans les lettres, qui n'ont pas du tout envie de faire des choses scientifiques. Donc, voilà. Il ne faut pas se sentir coupable. Simplement, il faut qu'ensemble, on agisse justement pour que les choses changent. Parce qu'une société où, à part égale, les filles, les garçons, tous les milieux plus ou moins défavorisés de toutes les cultures possibles du monde, si on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on construit une société meilleure et plus ouverte sur tout, hein, et plus imaginative, parce que c'est les regards croisés. Hein, quelquefois, quand vous discutez avec une fille, vous dites « Ah ben oui, moi, je n'aurais pas pensé à ça. » Ou une fille qui discute avec un garçon, elle dit « Ah ben oui, finalement, les garçons. » Et donc, c'est en construisant les choses ensemble qu'on peut changer les choses et que ce sera mieux.
Quelles sont vos idées pour l'avenir et les générations prochaines ?
Ça, c'est une grave question. Mes idées pour l'avenir. Ben, j'espère que justement, ce que je viens de dire va se réaliser. C'est-à-dire que peu à peu, bon, il y a une prise de conscience, mais après, il faut mettre en œuvre les choses. Hein. Donc j'espère que peu à peu, il y avoir un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes pour construire des choses mieux. Mais on sait bien que c'est un temps long. Hein. Ça fait très, 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 très longtemps que d'abord, même au XVIIIe siècle, même avant, hein, il y a des femmes qui ont pris conscience de cette problématique homme-femme. De plus en plus, il y a des hommes qui ont pris conscience de cette problématique homme-femme. Mais après, changer les choses, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça va changer dans le bon sens. Et puis, je pense qu'on est dans un système mondialisé aussi, c'est-à-dire que quand on compare ce qui se passe dans les autres cultures ou dans d'autres pays, hein, moi c'est mon cas, quelquefois je suis confronté à des collègues qui n'ont pas été formés comme moi et tout d'un coup ils ne voient pas les choses comme moi et je me dis mais finalement, ouais, voilà, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais c'est ensemble qu'on construit des choses. Hein. Donc moi j'espère que pour vous, les jeunes, la société va évoluer dans ce sens-là, où quelquefois on parle de la mondialisation sous une forme négative, mais on peut en parler aussi sous une forme positive. C'est-à-dire qu'on on prenne le meilleur de tout, hein, pour que chacun vive, mais en ne niant pas sa culture. Hein. On a une culture, il faut au contraire la valoriser, mais pas au détriment d'une autre culture, mais pour apporter des choses différentes. Hein. Et puis évidemment, vous êtes en ce moment baigné dans le changement climatique, sauvons la planète Terre, etc. C'est des choses qui vous tracassent énormément. Alors d'abord, je pense qu'on pourrait, ce serait un autre sujet, hein, il faudrait en parler. Mais il faut se dire que justement, les sciences, c'est sûrement des choses qui vont pouvoir finalement améliorer aussi donner quelques réponses, même parcellaires, pour que ça se passe mieux, quoi, hein, pour que ça se passe mieux. L'intelligence artificielle, la robotique, tout ça, ce sont des choses sûrement qui, si on les prend dans le bon sens, amélioreront tout. Mais ça peut être aussi très négatif. C'est pour ça qu'il faut être des scientifiques avisés et critiques. Mais même si on n'est pas scientifique, il faut être avisé et critique. Donc les études, l'éducation, c'est la clé de tout.
Merci Anne Boyer d'avoir répondu à nos questions.